Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Au moment où on enregistre ça, on est à quelques jours à peine de l'Halloween, fait que c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de cette manifestation du symbolisme là. Fait que je commençais par dire quelques mots, puis après ça, je vais comme te lancer la balle, Jonathan. Mais l'Halloween, c'est un genre de carnaval là, où on va célébrer une genre de fragmentation des choses dans la mort. On va se déguiser, on va faire des décorations, etc. C'est une façon de nous protéger de la mort ou de nous moquer de la mort de faire ça. Mais pour commencer le sujet, ce serait bien, Jonathan, si tu peux nous dire un peu quelques mots sur le carnaval. Puis pourquoi aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup de carnaval dans la société, mais auparavant, c'était assez commun. Puis c'était quoi le rôle que ça jouait, ces carnavals-là?
Les carnavals, c'est une. Souvent, on a tendance à confondre les différentes sortes de célébrations. Puis, je pense que c'est vraiment un phénomène un peu d'aujourd'hui, là, parce que notre monde il est très carnaval. On a l'impression que la seule sorte de célébration, en fait, c'est le carnaval. Mais dans le monde traditionnel, les carnavals, ils jouaient une fonction en particulier. C'était pas la même chose que, par exemple, célébrer la fête à quelqu'un ou célébrer une fête liturgique ou une fête dans l'église ou la fête nationale et tout. Il y avait vraiment une différence. Le carnaval, c'était quelque chose qui arrivait dépendamment des sociétés. Mais par exemple, nous, on avait Mardi Gras. Des fois, il y avait des carnavals en hiver, ce qui était lié avec le Nouvel An ou lié avec la fin de la fête de Noël. Fait que c'était souvent à la fin des cycles. Il y avait des carnavals. Fait que les cycles, tu peux les voir de différentes façons. C'est pour ça que souvent les carnavals ils peuvent apparaître à différents moments dans les cycles. Et aussi, je sais pas si je l'ai mentionné, mais il y a le Mardi Gras qui est comme vraiment important par rapport au carnaval. Puis dans le fond, le carnaval, ce que c'est comme une expression de la marge. C'est une expression de tout ce qui est comme un résidu de la société. C'est un endroit où le sens. Il se fragmente, mais il se fragmente de plusieurs façons. Fait qu'il devient excessif. Disons, il y a des manifestations d'excès. Fait que, t'sais, les couleurs sont exagérées, les ornements. Je ne sais pas si tu te souviens, là, les anciens carrousels. Fait que des gros ornements super caricaturales avec les animaux. T'sais, imagine juste la roue, là, c'est ça. C'est comme tu as comme un pilier au milieu. Tu as la roue qui tourne. Puis là, tu as des animaux sur le bord. Puis, on fait juste tourner en rond, tu sais. On ne va pas nulle part, tu sais. On tourne en rond, puis c'est le fun de tourner en rond, finalement.
Avec de la musique violente aussi, ben
Avec
violente, musique farfelue.
la musique farfelue, là, qui est très, très, très. Qui est ça, qui est excessive, là. Fait que c'est ça. Puis, beaucoup de couleurs. Puis, il y a l'esthétique du jeu lui-même, c'est-à-dire qu'on a des jeux de chance ou des jeux d'habileté qui sont truqués, là, tu sais, qui ne sont pas tout à fait legit. Avant, il y avait aussi les freak shows qui faisaient partie des carnavals, c'est-à-dire qu'on allait voir des monstres carrément. Là, tu sais, on payait quelque chose pour voir une femme à barbe ou c'est souvent des gens handicapés ou des gens qui avaient des problèmes physiques. Ou des fois, c'était fake aussi. C'était comme un faux. C'était un faux. Donc, c'était comme, je sais pas moi, un homme cheval, mais tu sais, c'était juste collé, là. C'était un truc collé sur le gars, là. Fait qu'il y avait, tu sais, tu vas voir des mondes, des exceptions, mais aussi tu te fais truquer parce que c'est pas totalement légitime. Il y a quelque chose d'illégitime même dans la façon dont le freak est présenté. Puis finalement, c'est le cirque, là, tu sais, le cirque moderne, là, qui a comme englobé le plus l'esthétique du carnaval, qui circule, qui voyage, qui se promène d'un endroit à l'autre, qui s'installe dans les endroits désaffectés de la ville, où il n'y a pas déjà quelque chose, puis qui là, il manifeste tout le côté du carnaval. Fait que juste un peu de tisser toutes ces images-là ensemble, on peut comprendre un peu à quoi sert le carnaval. C'est un peu sortir le méchant en partie. C'est comme si on accumule, quand on a une certaine sobriété, on accumule un peu de. On accumule notre chaos, là. Puis là, c'est comme une valve, là. Tu peux ouvrir la valve, tu peux sortir le méchant. Mais il y a aussi un sens plus profond qui est. Un peu de tourner la mort contre la mort là, pour renouveler le système, d'avoir un moment où ça tourne, puis là, finalement, ça revient à l'endroit, là, à la fin. Fait que dans la fête des fous, par exemple, la fête des fous, c'est le meilleur exemple, là, où ils prenaient un fou, quelqu'un dans la ville qui était soit sans-abri, quelqu'un qui fitait pas, là, puis là, ou ben, des fois un enfant, puis là, on l'élisait prêtre, évêque ou bien roi pour la journée, puis on célébrait et tout. Puis là, à la fin de la journée, c'était comme fini, là, tu sais. On leur met, c'est un prisonnier des fois, on leur met en prison ou c'est comme on leur met à sa place. Puis là, le monde reprend forme.
Puis, disons, ça, qu'est-ce que ça faisait chez les gens de sortir le méchant? Y a-t-il aussi le fait de, comme disons, pointer un peu à, OK, comme ça, c'est la fin du monde, on vient de voir à quoi ça ressemble, maintenant on retourne au cycle normal, disons? Est-ce que c'était assez périodique, disons, cette fonction-là?
Moi, je pense que oui. C'est-à-dire, une des raisons de célébrer l'exception, c'est comme secrètement de toujours de démontrer la normalité. C'est-à-dire, si tu es dans un carnaval, puis là, tu fais des choses, puis tu es conscient que les choses que tu fais, c'est exceptionnel. Tu sais, c'est pas la vie de tous les jours. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu es en même temps en train de redéfinir la normalité. Fait que, tu sais, c'était aussi... dans le passé, l'idée de la femme à barbe ou l'homme-femme, c'était comme un des personnages qui existait dans le carnaval, là, qui était moitié, souvent c'était comme moitié homme, moitié femme. C'était comme un personnage dans le carnaval, mais ça faisait partie de ça aussi, d'avoir des genres d'exceptions qui nous rappellent la normalité.
C'est bon. Fait que là, on vient de parler des carnavals en général, puis l'Halloween, ça va en être un particulier. Puis il arrive un moment il y a un moment de l'année spécifique, c'est pas par hasard, là, pendant un moment où la nature est en train de mourir, là, surtout ici en Amérique du Nord, on le voit bien. Là, ici à Québec, les arbres, la plupart, ils n'ont plus beaucoup de feuilles. Les journées sont rendues très courtes, il fait froid aussi. Là, ils ont la mort qui commence à s'installer. Puis de célébrer l'Halloween à ce moment-là, c'est un peu de se moquer de la mort, là, puis d'essayer d'éloigner la mort aussi. Fait que là, il y a plein de petites choses qui vont sortir. Là. Fait que, mettons, pourquoi est-ce que on va prendre des citrouilles puis on va graver des visages comme épeurants dessus.
Oui. Ben avant, peut-être, j'aimerais ça, avant qu'on va dans les traditions, nos traditions d'Halloween, ça serait de comprendre l'Halloween comme une fête sacrée à la base, parce que l'Halloween, c'était dans le cycle liturgique occidental, c'est la veille de la fête de la Toussaint, dans le fond. Fait que je me souviens plus c'est quoi l'ordre. Non, c'est pas la veille de la Toussaint, c'est la veille de la fête des morts, dans le fond. Puis là, je pense que c'est le troisième jour. Il y a comme trois jours.
Il me semble que c'est Halloween, Toussaint, fête de tous les morts.
Tu as raison, exactement, c'est le contraire. Fait que dans le fond, c'est la veille de la Toussaint. Puis, fait qu'il y a comme dans la tradition liturgique, dans cette période-là, au moment de la Toussaint et au moment de la fête des morts, les prêtres vont porter des vêtements noirs. Des fois, même des vêtements décorés de crânes. Fait que, il y a plusieurs images. Il y en a qui sont assez élaborées, là, où tu as comme la soutane, pas la soutane, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, le chasuble là, du prêtre, là, où derrière, il y a comme un momentum mori, il y a un crâne. Puis là, c'est « Souviens-toi de la mort ». Fait que déjà, ça, c'est comme un peu l'origine, même esthétique là, de l'Halloween. Fait que l'idée, c'était que, quand tu peux le comprendre comme ça, c'est qu'on a la fête de la Toussaint, où on fête tous les morts qui sont en fait glorieux. T'sais? Puis après ça, tous les morts qui sont... Après, on prie pour tous les morts qu'on ne sait pas. T'sais? C'est-à-dire tous les gens qui sont morts, mais tous nos amis, nos familles, les gens qu'on connaît qui sont morts. Fait qu'au début, on célèbre les saints qui sont morts, mais qui sont glorieux. Après ça, on prie pour ceux qu'on ne sait pas. Puis finalement, il reste comme s'il y a un aspect de la mort qui reste. Puis c'est vraiment l'aspect carnaval. Puis ça, c'est devenu la veille de la Toussaint. Fait que c'est comme si tu peux imaginer ça comme une manifestation de la mort. Puis il y a la manifestation religieuse de la mort. Puis dans la marge de cette manifestation religieuse, c'est comme s'il y a nécessairement les aspects plus pernicieux de la mort qui devaient se manifester. Tu sais. Fait que ça s'est manifesté dans les marges. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est juste ça qui nous reste. C'est-à-dire, il nous reste juste cette partie-là de la fête, qui est la fête, qui est le côté carnaval de rire de la mort, de se moquer, de participer à la mort, d'expérimenter un peu des imageries qui sont liées à la mort, pour avoir peur, pour être un peu... c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai rien contre... Moi, je célèbre l'Halloween avec mes enfants, tu sais, c'est comme... J'ai pas rien contre l'Halloween en tant que tel. C'est sûr qu'il peut y avoir des excès. Mais il y a quand même... C'est quand même... suspicieux de voir comment que finalement c'est juste ce côté-là de la fête qui reste. Comme à Noël, la seule chose qui reste de la fête de Noël, c'est le côté dark de Noël qui est s'accumuler des cadeaux, là, avoir plus de.
Le
de
côté patente. Potentiel, oui.
Oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose. C'est comme si les fêtes, à mesure qu'ils sont évacués leur sens plus élevé, il reste juste les sens un peu accidentels ou plus marginales qui sont même un peu le côté dangereux de la fête, là, on pourrait dire. Mais c'est ça. Ceci étant dit, c'est ça. Pour l'idée des traditions en tant que telles, bien, ils viennent, la majorité viennent de l'Angleterre, de l'Irlande, des endroits un peu aussi sur les bords, qui ont été amenés en Amérique avec les immigrants de ces endroits-là. C'est comme une gargouille. Tu sais, c'est pas compliqué, là, c'est vraiment une gargouille. Tu fais un monstre, c'est apotropaïque. C'est-à-dire que tu as un monstre que tu mets à l'extérieur de ta maison pour repousser les monstres, finalement. Le jour, puis ça se passe, tu sais, autour de la. Du moment entre les deux. Ça se passe entre l'équinoxe puis le solstice. Là, c'est à peu près au milieu entre l'équinoxe et le solstice. Et tu peux imaginer que c'est le moment où tu vois. Tu sais, parce que disons, à l'équinoxe, c'est comme si là, c'est. Tu ne sens pas encore que les journées, que la noirceur gagne. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne le sens pas encore. Tu le sens plus tard. Ou tu pourrais dire, OK, là, c'est la journée où c'est égal, OK? Puis là, tranquillement, on s'en va vers le jour le plus sombre de l'année. Puis tu peux imaginer que, disons, à peu près au milieu de ça, là, c'est comme là tu t'en rends vraiment compte. Là. Les journées sont vraiment plus courtes. La noirceur, elle envahit. En plus de ça, la nature est en train de mourir. Les arbres, ils perdent leurs feuilles. T'sais, la mort est présente partout. C'est la récolte est finie. T'sais. Là, on a les résultats de la récolte. Puis ce qu'il y a de la récolte qui est lié avec la mort, c'est aussi un peu des trucs comme ça, comme les citrouilles, les courges, des maïs séchés, toutes les images qu'on a de l'automne tardif, là, si tu veux, qui sont reliées avec préserver ce qu'on peut pour l'hiver. Fait que la tradition, c'était en Irlande, ils sculptaient des genres de courges. Là. Puis là, nous, ben, c'est le pumpkin, là. La citrouille, c'est vraiment américain. Là. C'est un fruit qui vient d'Amérique, une courge américaine. Puis ça s'est comme fusionné ensemble.
Puis est-ce que le fait que les enfants vont se déguiser en monstres, vont se déguiser en mort de certaine façon, qui vont passer de maison en maison pour aller demander des bonbons, sinon jette un sortilège, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient aussi, disons, de l'Irlande, de l'Angleterre et tout ça? Est-ce qu'on sait ça vient d'où ça aussi? Est-ce que c'est,
disons, oui, c'était des traditions qui existaient à l'époque. Puis il y avait d'autres aspects de ces traditions-là qui sont super intéressantes. Là. C'était que il y avait l'idée qu'il fallait que ça dérange un peu. C'est comme les enfants ou les gens venaient, puis là, ils étaient déguisés ou whatever. Puis là, ils insistaient envers les gens de la maison. Puis là, les gens de la maison devaient comme les accueillir, mais c'était vraiment vu comme si ça devait te déranger un peu. Comme malaisant, disons. Puis là, finalement, ben là, il faut que tu donnes pour qu'il s'en aille. T'sais. Puis, t'sais, c'est très profond comme comprendre la façon dont les choses étranges se manifestent à nous. T'sais. Parce que les choses étranges qui se manifestent à nous, ils cherchent une maison. C'est une façon de le comprendre. Ils cherchent un corps parce qu'ils sont comme désincarnés, surtout les choses vraiment étranges. Parce que la raison pourquoi ils sont ici, c'est qu'ils ne sont plus chez eux. S'il y a quelque chose d'étrange qui se manifeste à toi, c'est parce que ce n'est pas dans son contexte normal. Il est comme sorti d'un contexte. Puis il cherche un contexte. Fait que là, il faut que tu fasses attention parce que si tu lui donnes une maison, mais là, il ne va pas s'en aller. Il va juste rester tout le temps. Il ne va pas partir. Si tu le chasses, c'est aussi dangereux parce qu'il peut revenir avec ses amis pour comme venir te chercher après. Fait que la question, c'est comment tu fais? T'sais? C'est ça l'idée du trick or treat. C'est comme une espèce de transaction où tu donnes un petit quelque chose à l'étrange pour l'empêcher de t'envahir finalement. Mais c'est tricky parce que ça aussi, c'est que quand tu donnes quelque chose à la chose étrange, tu sais qu'elle va revenir plus tard. Fait que c'est vraiment le problème de ça. Puis là, je parle en termes abstraits, là, mais tu pourrais penser qu'un exemple, tu as une mauvaise habitude. Je ne sais pas, moi, tu aimes l'alcool. Fait que là, tu as comme un. Disons, tu as cette affaire-là qui se présente à toi, puis là, il faut comme tu décides comment tu vas la gérer. Si tu la laisses entrer complètement, tu es faite. Tu le sais, de toute façon, tu le sais, tu es faite. Si tu deviens. Là, tu deviens alcoolique, ta vie s'effondre, ça devient ton Dieu, ça prend toute la place. Non, ça, c'est pas la bonne façon de faire. Tu peux te dire, moi, je boirai rien. Il y en a qui réussissent, comme je vais chasser cette affaire-là. Il faut que tu fasses attention à ça. Parce que si tu aimes ça, si c'est quelque chose qui t'attire ou qui est attiré vers toi, bien là, le problème, c'est que tu vas créer comme une genre de disette, là. Puis à un moment donné, ça va revenir, paf! Là, ça va être comme le comment je peux dire, fall off the wagon, tu sais. Puis là, tu vas avoir un excès quand ça va revenir. Fait que la façon de le gérer, c'est de dire, OK, moi, je m'achète, tu sais, je prends une bière le vendredi soir puis le samedi soir. C'est ça. Ou, tu sais, ça dépend des gens, tu sais. Je prends un verre de vin en mangeant, c'est ça. Fait que là, je donne ma carotte et je donne mon bonbon à cette affaire-là. Puis je reçois comme je reçois quelque chose de ça, là, tu sais, je reçois une expérience, là. Puis après ça, ben ça s'en va. Mais c'est sûr que ça va revenir. Mais c'est une façon de gérer le chaos, gérer le potentiel ou gérer les choses qui ont tendance à venir prendre la place, là.
Puis est-ce que l'Halloween fait ça aussi comme rituel avec les divinités païennes qu'il y avait justement en Irlande puis en Angleterre?
Bien, il y a beaucoup de gens qui veulent relier ça à ça, à des anciennes pratiques païennes, peut-être, mais tu sais, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est des choses qui sont un peu perdues dans l'histoire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de modernes, des protestants en particulier, là, tu sais, qui ont voulu se dire que c'est la fête de Samhain, que c'est une fête païenne irlandaise et tout. Puis possiblement qu'il y a des traditions qui viennent des fêtes païennes. Mais c'est clairement, ça a toujours été clairement une fête chrétienne, la façon que c'était pratiqué. Puis, c'est vrai que ça peut t'aider à comprendre comment les sociétés, disons, païennes géraient les démons, là. C'était un peu comme ça. Puis, nous, on peut penser que nous, on ne fait pas ça, mais idéalement, on a une solution ultime qui est le Christ, qui peut comme nous faire sortir de ce pattern-là. Mais dans la vraie vie, on deal avec les démons tout le temps. T'sais, on est tout le temps en train de faire ce genre de geste-là, d'apaiser les choses pour les empêcher d'envahir complètement ton monde.
Oui, c'est la différence entre l'Halloween et la Toussaint.
Ouais.
On n'est pas censé s'arrêter à l'Halloween, mais c'est une autre façon peut-être de le voir, c'est que quand les gens vont se déguiser en monstres de différentes façons, là, sont quand même en train de donner un corps à des monstres aussi. Là.
Ouais.
Tu sais, c'est des créatures subtiles qui ne sont pas dans le monde de manifestation habituelle, là, des fantômes, des monstres, des démons. Ben, quand on s'habille comme eux, on leur donne un certain genre d'existence, un genre d'existence ferme. Mais tu sais, on leur donne un jour par année, c'est pendant quelques heures, puis on leur donne des bonbons, puis ils s'en vont, puis ils reviennent juste l'an prochain.
T'as raison, puis c'est super bon. Puis tu sais, il n'y a rien de magique là-dedans. Je fais attention que les gens ne pensent pas qu'on parle de choses qui sont juste comme arbitrairement magiques. Là. Les vampires, ça n'existe pas. T'sais, je ne dis pas de la façon dont on les conçoit. La même chose avec des loups-garous et des trucs comme ça. Puis ils existent à travers nous. Fait que, c'est, oui, ils ont une sorte d'existence, mais ils existent à travers nos films, nos histoires, nos romans, nos légendes, nos expériences incomprises. Tout ça, c'est comme ce qui fait que ces êtres-là existent. Puis comme tu dis, si tu te déguises en vampire, puis là, tu marches dans la rue, mais tu es en train carrément de donner corps à ces êtres-là. Puis, comme tu dis, à cause que, idéalement, on le pense en tout, tu sais, que c'est juste, c'est pas la totalité du pattern, c'est juste comme un moment dans la grande structure. Mais là, c'est réaliser qu'en fait, ces choses-là, ils ont une existence, ils ont un corps, c'est quelque chose qui est lié avec l'exception, avec l'image, avec l'imagination, avec tout ça. Puis même les bonbons aussi, c'est relié avec l'idée des bonbons. Parce que les bonbons, c'est des choses qui ne sont pas nourrissantes. T'sais. C'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger ça pour vivre, des bonbons. C'est vraiment genre un plaisir désincarné. Là. C'est un peu comme du divertissement, là, des bonbons. Là. Tu manges ça juste pour avoir du plaisir, finalement. Fait qu'il y a comme un lien avec ça, puis aussi les disons, le carnaval en soi, là, tous ensemble, ça marche, là.
C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour des éléments principaux de l'Halloween. Puis, il y a un truc, je ne sais pas si ça va vraiment marcher comme question, là, mais je me demandais, quand je pensais à ça, là, en préparant tantôt, est-ce qu'il y a un lien entre, disons, le carnaval, avec toutes les inversions qu'on voit, puis le Vendredi Saint? Parce qu'on a parlé de Mardi Gras, comme au début du carême, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial avec le genre d'inversion qu'on voit aussi le Vendredi Saint. Je ne sais pas si c'est un rapport, là.
Moi, je pense que oui, là. J'avoue honnêtement que je ne l'ai jamais dit aussi explicitement que tu le dis là parce que j'ai peur de scandaliser les gens. Mais moi, je pense que oui. J'ai l'impression qu'une des choses qui se passe surtout dans l'humiliation du Christ, c'est quelque chose comme une fête des fous. C'est comme on se moque, on prend le prisonnier, puis là, on le déguise en roi, on le déguise en personnage, puis là, on fait semblant de se prosterner devant lui. Puis même à la crucifixion aussi, de mettre une affiche qui dit que c'est le roi, tout ça. C'est comme une manifestation de cet aspect-là du carnaval, d'un monde à l'envers. Mais dans son cas à lui, c'est comme une double ironie, là. T'sais, souvent, je parle de ça. Mathieu, il parle beaucoup de ça aussi dans son livre, l'idée d'une double inversion, d'une double ironie. Puis c'est ça qui se passe dans cette histoire-là. C'est que c'est comme. Toi, tu penses qu'il est criminel, fait que là, tu le traites comme un roi pour se moquer de lui, mais finalement, c'est le roi. Fait que t'es en train de le rétablir comme dans sa position réelle, sans le savoir, de façon comme de par une surprise, disons. Fait que je pense que c'est ça aussi, ouais, c'est ça un peu un des mystères du christianisme. Hein.
Puis pour essayer de continuer à comprendre ça, je n'ai pas de questions d'autres directement sur le Vendredi Saint, mais un autre monstre chrétien célèbre qui peut peut-être nous aider à comprendre ça, c'est Saint-Christophe. Et je sais que tu as beaucoup Saint-Christophe en tête, là, non seulement parce que il est proche de toi dans ta vie, mais en plus, tu es en train de sortir en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est pas un magazine, un.
C'est une bande dessinée, là, en
Ok,
français,
ok.
on utilise le mot bande dessinée. Fait que ça, tout le monde qui regarde ça, vous pouvez aller le 31, le jour de l'Halloween, on va commencer le crowdfunding pour notre bande dessinée sur les légendes de Saint-Christophe. D'ailleurs, qui traite toute cette question-là, parce que Saint-Christophe, il se présente dans l'histoire comme un étrange, c'est comme un truc qui ne fit pas. Puis il y a certains qui voient son potentiel, d'autres qui voient son danger. Puis là, il y a un conflit même dans le groupe. À savoir, est-ce qu'il va plus manifester une possibilité ou est-ce qu'il va plus manifester une menace? T'sais? Fait que là, c'est comment gérer l'étrange. C'est ça un peu c'est comme ça que l'histoire commence, au moins. C'est sûr que Saint-Christophe, lui, dans l'histoire de Saint-Christophe, il y a vraiment le double trick, là, si on pourrait dire. C'est relié. L'idée aussi du trick, tu sais, quand on dit les gens qui vont passer la lune, on dit trick or treat, tu sais, que je te fais un truc, soit que tu me donnes un bonbon, ou bien je vais te faire un tour. C'est ça que les gens disent. Il n'y a personne qui le fait, là. Mais avant, c'est l'idée que si tu ne donnes pas à l'enfant, ben lui, il donne le droit, tu sais, de lancer des œufs ou de faire un truc, tu sais, comme pour te faire un tour, finalement. Puis le tour, c'est relié avec la fin, là, parce qu'un trick, c'est comme un endroit où le sens puis ce qui se passe, c'est pas connecté. C'est un mensonge, dans le fond, un trick, c'est comme un mensonge. C'est si je dis ça, et ce que je veux, c'est ça, puis je le dis d'une façon pour que finalement, ça mène à ce que je veux sans que tu le saches. Fait que, tu sais, c'est comme je te mens, ou d'une certaine façon, pour t'amener vers quelque chose d'autre,
Je pense
là.
qu'en français, il y a une expression qui est comme des bonbons ou un sortilège, des
Ah
bonbons ou un
oui.
sort. Ouais. Je pense que c'est un peu l'équivalent. C'est soit que tu me donnes des bonbons et c'est fini, ou bien sinon, je vais dire quelque chose qui vient manipuler, disons, le rapport entre les faits et les paroles.
Oui, ça va comme je vais casser ton monde, là, avec mes paroles. Mais dans l'histoire de Saint-Christophe, là, tu vois ce rapport-là parce que. Bon, l'histoire de Saint-Christophe, la légende de Saint-Christophe qui est le plus connue, là, c'est celle où Saint-Christophe, en fait, c'est un géant qui est lié au géant de la Genèse, là, qui est né au géant du déluge. Puis, mais c'est comme un résidu de ça, là. Il n'y a pas besoin d'expliquer comment c'est possible. C'est pas grave. Dis-toi juste que c'est la même genre d'affaires qu'il y avait dans le déluge. C'est un Cananéen. Okay? Donc, c'est un géant cananéen, comme les géants cananéens que les Israélites ont rencontrés en allant vers la terre promise. Puis lui, il vit dans son monde cananéen, puis il a comme un genre de désir de servir le roi le plus fort sur la terre, ou l'homme le plus fort sur la terre. Puis il part à la recherche de l'homme le plus fort sur la terre, il trouve un roi, puis là, il dit qu'il va servir le roi, il sert le roi, jusqu'à temps qu'il réalise que le roi, il a peur du diable. Fait que Saint-Christophe, il joue un tour. Il lui dit, dis-moi, c'est qui ce diable que je vois, dont tu as peur? Puis là, le roi, sa réponse est, je ne veux pas te dire c'est qui le diable, parce que si je te dis c'est qui le diable, tu vas t'en aller, tu vas aller le servir. Fait que là, Saint-Christophe, il tourne ça contre lui, il dit, non, il dit, si tu ne me dis pas c'est qui le diable, bien là, je vais te laisser, je vais m'en aller. Fait que là, le roi, il prend le pari, il dit, OK, je vais te dire c'est qui le diable, il explique c'est qui le diable, puis là, Saint-Christophe, il s'en va. Puis à cette époque-là, il ne s'appelle pas Saint-Christophe, il s'appelle Réprobus. C'est un réprobe, c'est comme un rejeté, finalement. Fait que là, il s'en va, là, finalement, il arrive, il trouve le diable. Puis là, il dit, je vais me mettre au service du diable, il se met au service du diable. Puis à un moment donné, il voit que le diable, il a peur de la croix. Puis là, il dit, c'est quoi ça, cette croix-là? C'est relié à quoi? Faut que tu m'expliques, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, le diable, il dit, je te dis la même chose, je ne te dirai pas. Si je te le dis, tu vas t'en aller. Et Réprobus, il répond, ben si tu me dis pas, je vais m'en aller. Fait qu'il explique c'est qui Jésus. Fait que là, Réprobus, il part, il va à la recherche de Jésus. Puis là, lui, il n'oublie pas, il pense qu'il veut servir l'homme le plus fort du monde. Fait que là, il rencontre un moine, puis là, le moine, il lui parle, il cherche Jésus, là, il cherche le plus fort. T'sais. Puis là, le moine, il dit, OK, ben moi, je peux te montrer comment servir Jésus. T'sais. Parce que c'est ça qu'il veut, il veut servir l'homme le plus fort. Mais là, ce qu'il lui demande, c'est le contraire de ce que peut-être il aurait pensé qu'il lui demande. Il lui dit, il faut que tu pries. Puis là, tu sais, Réprobus, c'est un monstre, là. Il faut que tu l'imagines soit comme un géant, soit un homme à tête de chien. C'est clair que lui, c'est ça, c'est un monstre. Fait qu'il dit non, moi, je ne peux pas prier, ça ne marche pas. Fait que le moine, il lui dit, bon, ben d'abord, si tu ne peux pas prier, il faudrait que tu jeûnes, si tu peux jeûner. T'sais, tu vois, c'est tout le contraire de ce que lui s'attend. T'sais. Là, c'est comme, il faut que tu te restreignes, il faut que tu pries, il faut que tu te concentres. Puis après ça, il faut que tu réduises ton corps, si tu veux. Puis là, il dit non, il dit, là, je ne peux pas jeûner. Fait que le moine, il dit, bon, d'abord, ce que tu devrais faire, c'est tiens-toi à côté de la rivière, puis quand tu vois des gens qui viennent, au moins, tu pourras les traverser. Fait que dans le fond, ce qu'il lui dit, c'est tu rends service aux gens. C'est comme ça que tu vas servir à l'homme le plus fort, c'est que tu rends service aux gens qui sont là. Fait que lui, whatever, là, il ne sait pas, là, il accepte, il va sur le bord de la rivière, il traverse les gens, il agit comme un pont, il agit comme un psychopomp, qu'on dit là, en anglais, là, comme un celui qui traverse la rivière, là, vraiment dans le sens de la rivière de Hadès, la rivière de c'est comment il s'appelle, je ne me souviens pas les différents noms de Chiron, puis tous les noms des rivières qu'il y a dans l'enfer ancien. Là. Puis il traverse des gens, puis là, à un moment donné, il y a un enfant qui vient le voir, un bébé, un petit enfant, puis l'enfant lui demande de traverser. Fait qu'il met l'enfant sur ses épaules, puis il commence à traverser. Puis, rendu au milieu, ça commence à être vraiment lourd, tellement lourd qu'il pense qu'il va pas réussir. Il va comme flancher. Puis, dépendamment de la légende, soit il demande pendant qu'il traverse ou à la fin, quand il a réussi finalement à le traverser, il lui demande pourquoi tu étais lourd comme ça. Puis là, l'enfant lui dit, ben parce que je portais les péchés du monde. Puis là, l'enfant disparaît. Fait que là, c'est super intéressant parce que là, ce qui est arrivé, c'est que c'est Jésus qui l'a joué un tour sur lui. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est servir l'homme le plus fort du monde. Là, il se retrouve à servir l'être le plus faible du monde. C'est un bébé, un petit enfant. Puis là, il sert cet enfant-là. Puis pendant qu'il est en train de le servir, c'est comme clic. T'sais, le tour, il est comme révélé. Là. Il réalise qu'il est en train de se faire truquer. Que là, il est en train d'accomplir ce qu'il voulait accomplir depuis le début. Mais il fait comme en faisant le contraire de ce qu'il voulait. C'est vraiment une histoire qui est géniale. Elle est géniale, cette histoire-là. Fait qu'il, c'est comme, il sert le plus faible, mais en servant le plus faible, il sert le plus fort. Puis là, dans le fond, il y a un tour qui est joué sur lui, mais ce n'est pas à ses dépens, c'est à son salut. C'est comme le tour est joué sur lui pour le sauver, pas pour le faire perdre. D'habitude, un tour, on joue sur quelqu'un pour te faire perdre. Dans ce cas-ci, c'est un tour qui est joué sur lui pour le sauver. Parce que si au début, imagine au début, on lui avait dit, c'est le bébé, c'est lui le plus fort du monde, il aurait fait, yeah, OK, whatever, c'est n'importe quoi, là. Il serait parti. Fait quand il passe à travers tout ce processus-là pour arriver au point où il était prêt à faire ça, puis à réaliser en le faisant qu'il servait finalement le roi du monde, là, le roi de l'univers. Fait que c'est une super belle histoire pour comprendre cette espèce de double inversion-là dont Mathieu et moi, on parle souvent.
Puis c'est mystérieux parce que j'ai de la misère à voir. C'est comme si je n'étais pas capable de dire si, disons, les intentions de Saint-Christophe étaient bonnes ou pas bonnes dans toute cette histoire-là.
Non, c'est ça aussi qui est comme génial dans cette histoire-là. C'est comme un peu de dire, tu sais, récemment, dans le podcast le Lord of Spirits, puis j'en ai parlé dans mes podcasts anglais, ils ont amené l'idée que dans l'idée cosmique, c'est qu'il y a comme des anges de la gauche de Dieu, puis ces anges-là de la gauche, finalement, c'est les démons. Les démons, ils pensent qu'ils font les choses pour une raison, mais sans le savoir, ils font ultimement les choses au service de Dieu sans le savoir. C'est-à-dire que leurs actions sur nous, ça nous expose nos faiblesses, ça nous amène à nous repentir finalement. T'sais. Mais c'est la même chose avec Saint-Christophe. C'est-à-dire Saint-Christophe, malgré ses intentions, c'est comme si c'est même pas grave. C'est comme malgré ses intentions, il est quand même en train d'amener le Christ plus loin. Fait que, tu pourrais l'imaginer comme les gens qui sont anti-chrétiens, surtout dans le temps des Lumières, ils étaient anti-chrétiens. Puis là, un exemple super simple. Okay. Vraiment, ça, là, cet exemple-là, il est super simple. En anglais, on a une façon de dénoter les époques. On disait avant BC, AD. BC, c'était avant le Christ. AD, c'était Anno Domini, l'année du Seigneur. Puis là les gens, ils sont comme... Ça les énervait, tu sais, de encore utiliser ces termes-là pour parler des époques. Là, ils ont changé le terme. Puis là, ils ont fait BCE pour avant, Before Common Era, puis CE pour maintenant, Common Era. Fait que là, eux, ils pensent qu'ils sont en train d'agir contre le Christ. Ils sont en train d'effacer le Christ de l'histoire. Mais ils sont en train de dire que le Christ, il a inauguré une ère commune. C'est encore plus profond que de dire que c'est l'année du Seigneur. C'est comme s'ils disent, ils sont en train de nous dire que la naissance du Christ, ça l'a créé une ère commune où on peut tous s'entendre sur la date. C'est comme, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas. Fait que là, c'est ça l'idée de Saint-Christophe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la structure chrétienne qui fait que même le groupe heavy metal, qui fait des imageries sataniques, sont ultimement, sans s'en rendre compte, en train de réaffirmer le message. T'sais, puis on ne leur donne pas d'applaudissements à eux. Là, on ne leur dit pas qu'ils sont géniaux parce qu'ils font ça. Ils le font malgré eux. Mm-hmm. C'est comme un peu, je pense que c'est ça un peu aussi la surprise de la sécularisation, la surprise de l'antéchrist. Que même dans le mouvement de sécularisation, des choses qu'on réalise, c'est que les valeurs chrétiennes, ils ont comme infiltré tout le système au complet. C'est qu'ils se sont complètement comme rendus jusque dans l'inconscient des gens. Ils ne s'en rendent même pas compte. T'sais. Fait que c'est même la sécularisation, ultimement, elle va amener à réaffirmer le Christ. Mais comme je dis, il ne faut pas. Comme Jésus, faut que le scandale arrive, là, je le cite souvent, sauf malheur à celui par qui ça l'arrive. Je pense que c'est ça aussi. Mais on voit, je pense que l'image de Saint-Christophe, c'est vraiment une image de c'est ça, traverser la rivière. Qu'est-ce qui fait que quelque chose va plus loin? Ça peut se faire par des monstres, ça peut se faire par des choses qui semblent contre même le système ou qui n'ont pas les bonnes intentions, qui n'ont pas les bonnes...
Est-ce qu'il y avait un exemple drôle de ça aussi dans Kanye, là, puis son album qui s'appelait Jesus is King, où là, tu sais, des gens, disons, dans des grosses chaînes de nouvelles aux États-Unis voulaient parler, peut-être se moquer de Kanye, mais là, tu sais, pour juste nommer le nom de son article, pour nommer le nom de son album, il se retrouvait à dire que Jésus est roi.
Ouais, c'est ça. Ouais, lui, il trouve ça bien drôle. C'est une bonne idée, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est le genre de logique, le genre de geste que juste un fou peut faire, là. Ce qu'est Kanye, disons. D'ailleurs, ces temps-ci, il est hallucinant, là. Il porte plein de masques bizarres. Il est vu en public avec des masques, là, juste pas rapport.
Halloween, le
Ouais,
carnaval.
le
Ouais.
carnaval, ouais.
Mais je pense qu'on a fait bien le tour de ce thème-là. Je ne sais pas s'il y avait une autre chose que tu voulais rajouter pour l'Halloween qui arrive dans les
Mais
prochains jours.
je pense que c'est vraiment important parce que, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent ça, qui sont croyants, on a tendance, disons, par rapport à l'Halloween, il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a qui ont tendance à opposer l'Halloween. Mais je pense qu'au contraire, avec le mystère de Saint-Christophe, avec de comprendre ce mystère-là, on est plutôt capable de retourner l'Halloween sur lui-même et de l'utiliser comme un outil pour ramener la notion de l'inévitabilité de la lumière, l'inévitabilité de la résurrection, parce que c'est ça, ultimement. On pourrait dire la raison pourquoi on se moque de la mort, la raison pourquoi on n'a pas peur de ces choses-là, ou que, tu sais, on trouve ça drôle d'avoir peur, c'est parce qu'on sait ultimement que ce n'est pas la fin. T'sais, on sait ultimement qu'il y a quelque chose de l'autre bord de cette noirceur-là. Fait que je dirais, j'encouragerais les gens plutôt à le voir de cette façon-là, plutôt qu'être réactif.
Oui, comme on avait parlé un peu du Vendredi Saint, mais il y a plein de pères de l'Église qui vont lire ce qui s'est passé, un peu comme l'histoire de Saint Maxime, là, où, disons, la mort a été tournée contre la mort, où les démons, là, tous les démons qu'on nourrit à l'Halloween, ils pensaient qu'ils avaient gagné au Vendredi Saint, mais finalement, c'est par leur tentative de dévorer Jésus qui ont participé au pattern et qui ont réétabli les choses. Fait qu'on peut se moquer de la mort de cette façon-là si, disons, on regarde les choses à partir, disons, de la place stable dans l'Église.
Oui, c'est ça, exactement.
Bon ben, je pense que c'est une bonne conclusion pour notre épisode sur l'Halloween. Fait que ben, bon Halloween tout le monde. Puis allez regarder aussi God's Doc là, qui commence justement à son crowdfunding à l'Halloween.
À l'Halloween. Merci tout le monde. Salut. À bientôt.
À bientôt.